Des centaines de fidèles rassemblés hier après-midi à la cathédrale de Nouméa. Monseigneur Soussitino Sionepoe a été installé comme nouvel archevêque de Nouméa. L'Assemblée générale du Palikia, hier à Point-d'Imier, cette Assemblée générale a donné mandat aux élus afin qu'ils poursuivent les discussions avec le ministre des Outre-mer. Le dossier du nucléaire iranien de nouveau sur le devant de la scène médiatique. Le président des États-Unis estime que le temps est venu de négocier avec l'Iran. En métropole, les recherches ont repris dans le département de la Vienne pour tenter de retrouver Agathe, 28 ans, qui n'a plus donné signe de vie depuis jeudi dernier. 130 gendarmes et militaires sont mobilisés. Le sport, le football, 29e journée du championnat de France de Ligue 1. Dans le choc de la journée, Monaco s'est largement imposé sur Marseille. Score final 3-0. Et puis le cyclisme et la Française Pauline Ferrand-Prévot qui n'ont fini plus de dominer sa discipline. 8 mois après sa victoire aux Jeux Olympiques, elle a remporté cette nuit le Paris-Roubaix féminin. Bonjour et soyez les bienvenus dans ce journal. L'église de Nouvelle-Calédonie a donc un nouvel évêque, Monseigneur Soussitino Sionepoe, jusqu'alors évêque de Wallis et Futuna, a en effet été installé hier archevêque de Nouméa lors d'une cérémonie à la cathédrale de Nouméa. Cérémonie rare car Monseigneur Calvet est resté archevêque pendant 44 ans et qui a rassemblé plusieurs centaines de fidèles. Reportage Jean-François Baudin.
Une célébration qui a débuté à l'extérieur sur l'esplanade de la cathédrale. 11 évêques parmi lesquels Monseigneur Calvet et son successeur Monseigneur Sionepoe, mais aussi 25 prêtres, 18 diacres et 9 enfants de chœur dans leurs habits liturgiques blancs ont formé la procession qui est entrée dans l'église accompagnée par les danseurs du Wetsch. C'est Monseigneur Calvet qui a ouvert la célébration et Monseigneur Riocreux, ancien curé de la cathédrale de Nouméa, venu exprès pour l'occasion, a lu un message de Monseigneur Éric de Moulin-Beaufort, le président de la Conférence des évêques de France.
Je reste persuadé que ce que vous vivez nous concerne, nous aussi, chrétiens de métropole. Comme je suis convaincu que l'avenir dont vous cherchez les voies devrait éclairer le renouvellement de la vie démocratique et de la manière dont nous vivons notre unité nationale. Que Dieu vous rende fort.
Après cette intervention est venu le temps de l'installation officielle de Monseigneur Sionepoe. Monseigneur Calvet, son prédécesseur, a invité à la lecture de la bulle pontificale écrite le 14 janvier dernier par le pape François et adressée à son successeur pour lui annoncer sa nomination à la tête du diocèse de Nouméa.
Chers frères dans l'épiscopat, vous devez avoir reçu du siège apostolique la lettre qui vous désigne comme archevêque de Nouméa. Qu'on la montre à tout le monde, qu'on puisse la voir, puis qu'on en fasse la lecture.
Et c'est le Père Ngo, curé de la paroisse du Vœu, qui a lu la bulle pontificale adressée par le pape à Monseigneur Soussitino Sionepoe.
Nous demandons à Dieu que, par l'intercession de la bienheureuse Vierge Marie, et de Saint Joseph, son époux, le peuple de Dieu confié à tes soins connaisse beaucoup de joie et trouve consolation dans ta charité, car par ton ministère, à cause de l'Évangile, le cœur des pauvres se repose dans Christ. Donné à Rome au Latran, le 14e jour du mois de janvier, l'année du Seigneur 2025 et la 12e de notre pontificat. Signé François Pape.
À partir de cet instant, Monseigneur Sionepoe est donc devenu officiellement archevêque de Nouméa et la cérémonie s'est poursuivie par la liturgie de la parole. Le nouvel archevêque de Nouméa a ensuite prononcé sa première homélie pour commenter comme il se doit les lectures du jour.
Le poteau central de la vraie fraternité ou du vivre ensemble, c'est donc le Christ lui-même et notre volonté de le suivre et de nous unir librement à lui. Nous devons vouloir étendre la fraternité à tous. Saint Jacques nous met devant le choix fondamental entre la vie ou la mort. Celui de nous soumettre à la sagesse de Dieu ou à celle du monde. Nous devons faire un choix, car il n'est pas possible d'être avec le monde et en même temps avec Dieu.
Nous devons choisir la vie, a insisté Mgr Sione Poé, avant d'inviter les fidèles sur le chemin de la justice et de la paix, avec des mots qui faisaient évidemment référence à la situation actuelle de la Nouvelle-Calédonie.
La parole de Dieu associe souvent la justice et la paix. Tantôt la justice est le fondement de la paix, tantôt la paix est la condition de la justice. Saint Jacques nous dit encore comment entretenir la justice pour donner du fruit, c'est-à-dire par ceux et celles qui continuent à promouvoir la paix. Chers amis, le fruit est toujours dans la semence. 182 ans, que les Calédoniennes et Calédoniens cheminent avec le Christ par le chemin de l'espérance. Le pays est à la croisée des chemins. Notre foi nous appelle à l'espérance.
Une célébration d'un peu plus de 2 heures qui s'est conclue par la prise de parole du nonce apostolique représentant le pape dans le Pacifique. Il a entre autres salué le travail mené pendant plus de 40 ans par Mgr Calvet à la tête du diocèse de Nouméa, qui a été applaudi par les fidèles présents dans la cathédrale.
Le haut-commissaire Louis Lefranc a assisté à la cérémonie, ainsi que notamment la présidente de la province sud, Sonia Baquès, la présidente du congrès, Velma Falaeo, le maire de Nouméa, Sonia Lagarde, et celui du Mont d'Or, Élie Lecourieux, ou encore Rocco Amitan. Présent également le général Latil, commandant supérieur des forces armées en Nouvelle-Calédonie, le général Mathéos, commandant de la gendarmerie, et de nombreuses personnalités de la société civile et de nos très nombreux fidèles.
Très contente de voir assister Mgr Calvet et passe le relais à Mgr.
On est tous contents parce que comme on fait partie de la famille de l'évêque, nous tous on est là, toute la famille, ben on est tout contents pour lui.
Je suis venu de la foi, ah, c'était magnifique. Comme c'est pas tous les jours, alors du coup, on a trouvé l'occasion pour venir. Ben, c'est surtout la passation, quoi, je veux dire. C'est pas tous les jours que ça se passait.
Pour moi, c'était émouvant, quoi, parce que j'ai toujours prié Jésus. Et puis voilà, pour moi, c'est une grande grâce d'avoir assisté.
Je l'ai vécu de dehors. C'était comme si j'étais à l'intérieur aussi. Je pense que c'est la première fois et ça sera l'unique fois, hein, parce que... Là, on a vu que le Mgr Calvet, il a fait quand même 44 ans. Voilà.
Et l'actualité religieuse est particulièrement dense puisque les chrétiens entrent dans la Semaine Sainte qui conduit à la fête de Pâques qui sera célébrée dimanche prochain, le 20 avril. La Semaine Sainte débute par le dimanche des rameaux qui est célébré aujourd'hui. À cette occasion, les fidèles apportent des rameaux qu'ils font bénir pendant la messe et qu'ils garderont ensuite chez eux toute l'année. Le père Jean-Paul Pouillet nous rappelle le sens du dimanche des rameaux.
Le dimanche des rameaux se situe au début de la plus grande semaine pour les chrétiens, ce qu'on appelle la semaine sainte, qui nous permet de nous remémorer, de revivre les derniers jours de la vie de Jésus-Christ sur terre. C'est un petit peu comme un concentré, un condensé de tout ce qu'il a vécu pendant toute sa vie sur terre. Il a rassemblé les foules et il y a eu aussi des hostilités, des personnes qui n'ont pas voulu l'accueillir. Et alors le dimanche des rameaux, nous l'acclamons, nous l'accueillons, mais nous avons conscience que ce n'est pas toujours le cas. Et donc le Christ aura aussi à souffrir l'hostilité et nous l'accompagnerons ensuite le reste de la semaine sainte. Donc le dimanche des rameaux est un jour de joie qui débute la semaine sainte, la grande semaine chrétienne.
Le dimanche des rameaux commémore l'entrée solennelle de Jésus à Jérusalem où il est acclamé par une foule qui agite des palmes et qui dépose des étoffes à son passage. On retrouve le père Jean-Paul Pouillet.
Il y avait une coutume à l'époque de Jésus pour accueillir un chef, un roi victorieux ou un guerrier victorieux. Eh bien, les gens avaient l'habitude de prendre des branchages, de prendre des tissus et de préparer un chemin et d'acclamer celui qui venait. Et la foule de Jérusalem, quand Jésus est entré à Jérusalem, ont fait pour lui le même geste, de l'acclamer. Et lui ne vient pas comme un guerrier victorieux qui veut écraser, il vient humblement monter sur un âne. Et donc cette fête des rameaux, nous reprenons nous aussi des branchages, des rameaux, et nous voulons redire au Christ que nous l'accueillons, non pas comme un roi qui nous domine, qui nous exploite, mais un roi qui nous accompagne et qui nous élève à lui. Et donc c'est l'acclamation, les rameaux, c'est ces branchages qui servent à accueillir un invité d'honneur, et le dimanche des Rameaux, c'est le Christ lui-même.
Et j'ajoute que cette année, la bénédiction des Rameaux sera retransmise en direct à la télévision à 9h, une bénédiction qui sera effective si vous êtes devant votre poste de télévision, comme c'est le cas par exemple pour les bénédictions Urbi et Orbi à la ville et au monde. L'actualité politique avec l'Assemblée Générale du Palika qui s'est tenue hier à la tribu de Saint-Thomas. Le parti devait faire le point avec ses militants sur la campagne d'explication engagée avant la dernière séquence de discussion à Nouméa, sur les discussions et les négociations en cours, mais aussi sur la situation institutionnelle. Écoutez, Judicaël Sélefène, le porte-parole du Palika.
Il y a des éléments de débat, par exemple sur la trajectoire. La question aujourd'hui qui fait débat, c'est l'autodétermination au bout. Dans le projet que l'État a livré, il y a prévu un référendum d'autodétermination sur un projet, chose que nous partageons tous autour de la table. Maintenant, la question, c'est la question de la durée. Donc, c'est un des sujets que l'Assemblée générale a alerté en disant, ben, nous, on souhaite que cette durée ne soit pas trop longue. Donc, voilà les types de sujets, les types d'alertes que l'Assemblée générale a formulées. Il y a des alertes qui concernent la répartition des sièges au Congrès, qui est un sujet. Donc l'Assemblée générale a rappelé que la répartition des sièges au Congrès relève d'un parcours historique et politique qui ne doit pas aujourd'hui être remis en cause. Donc c'est ça les points de vigilance que l'Assemblée générale a relevé. Donc voilà, on a quand même certains points, mais on se satisfait du fait que tous les éléments qu'on considère comme constitutifs de la trajectoire pour l'accession à l'indépendance sont présents dans la discussion. Et le débat est ouvert sur chaque point.
Et cette Assemblée Générale de Point-d'Imier a également donné mandat aux élus afin qu'ils poursuivent les discussions avec le ministre des Outre-mer, Manuel Valls, lors de sa prochaine venue sur le territoire. Ce sera à la fin du mois. On retrouve Judicaël Sélefène.
C'est assez satisfaisant. Ça permet à l'Assemblée Générale d'acter le point d'étape et de dire ben, on continue, on poursuit, puisque la stratégie de dialogue pour aller chercher un consensus, elle semble porter ses fruits. Donc il faut continuer. Donc on s'inscrit dans ce qui a été fait jusqu'ici depuis 2022 et à l'approche de l'arrivée des ministres, l'Assemblée Générale dit ben, on continue et puis on s'engage à être présent dans les discussions déjà avec les travaux en cours qu'on fait avec le cabinet, mais lorsque le ministre viendra, l'Assemblée Générale a engagé les camarades militants à poursuivre les discussions.
Judicaël Sélefène, porte-parole du Palika, joint au téléphone par Kélinda Boiscou. L'actualité sur le territoire marquée également par de nombreux rendez-vous festifs et culturels. Sur le Quai Ferry, le Tropical Market va se poursuivre aujourd'hui entre 9h et 15h. Et puis en brousse, c'est à Farino qu'il y aura de l'animation ce matin avec un grand marché des saveurs organisé par le marché de Mamie. L'occasion de réveiller vos papilles au cœur de Farino pour une matinée 100% gourmande et conviviale. Les précisions de Ghislaine Arly, la responsable du marché de Mamie.
Il y aura une animation spéciale parce qu'en fait, il y a une grande nouveauté pour nous, hein, comme c'est le marché des saveurs. On met à l'honneur la restauration que nous avons depuis plusieurs années. Et n'ayant pas peur des mots, on a appelé ça donc street food à Farino. Et on met en place un food court avec des tables. Et puis on a même rajouté des tables sur la pelouse qui donne sur la vue. Donc avec cette vue magnifique qu'on a au marché de Farino, on va pouvoir déguster tous les plats, des plats que font les restaurateurs du marché. Et il y a énormément de plats très, très intéressants, des plats traditionnels qu'on a l'habitude de manger, mais aussi, par exemple, des salades de poulpe, la salade tahitienne, du porc au sucre, et puis tout ce qu'on peut trouver au niveau thaï, javanais, des brochettes, enfin bref, vraiment, vraiment un grand choix, avec des prix très compétitifs.
Et le grand marché des saveurs, c'est de 8h à midi, c'est ce dimanche sur la place de la mairie à Farino. Il est 7h14, on va marquer une première pause dans ce journal, vous restez avec nous. Dans un instant, l'actualité en métropole et dans le monde.
Accueil détendu, équipe dynamique, toujours un sourire au Bilboquet Plage.
En tête à tête ou avec des amis, toujours de la place au Bilboquet Plage.
De la simple salade au saumon fumé, toujours un grand choix au Bilboquet Plage.
Du soleil de midi aux 12 coups de minuit, toujours nous servons au Bilboquet Plage.
Au Palm Beach à Lanzvata, face aux îlots, Bilboquet Plage, un plus pour le week-end.
RRB, nos efforts valent bien un geste fort. Soutenez-nous, faites un don. Par chèque, virement ou en espèces aux 4 rues de Sébastopol. Toutes les infos sur rrb.nc ou sur la page Facebook. RRB, les fréquences aux couleurs de la France.
RRB, première radio d'information. RRB, une radio d'opinion.
La Sud Info Week-end, Lionel Sabot.
Et voilà un dossier de plus sur la pile du bureau ovale pour Donald Trump, le dossier du nucléaire iranien. Le président des États-Unis estime que le temps est venu de négocier avec l'Iran sur le programme nucléaire iranien. Les deux pays envoient des émissaires au sultanat d'Oman. Il y a quelques heures, à bord d'Air Force One, le président américain s'est brièvement exprimé sur le sujet. Écoutez.
Je ne veux pas qu'ils aient d'armes nucléaires. Je veux que l'Iran soit un pays merveilleux, grand et heureux, mais ils ne peuvent pas avoir d'armes nucléaires. Et nous allons négocier avec eux samedi.
Donald Trump, le président américain, cette nuit pour nous à bord d'Air Force One. Les États-Unis et l'Iran vont donc entamer des discussions. Une première étape, estime David Rigoulet-Rose. Il est chercheur associé à l'IRIS et rédacteur en chef de la revue Orient Stratégique.
Pour l'instant, il s'agit juste de voir, en fait, les deux parties vont se jauger pour savoir s'il y a la possibilité de débuter un processus, en réalité. Donc c'est pour ça que c'est un moment charnière, effectivement. C'est tout simplement ce qui va déterminer la suite des événements, savoir si un processus est viable ou pas, en termes diplomatiques, évidemment, avec l'objectif de parvenir à un accord. Steve Witkoff a rappelé que le démantèlement total du programme était la position de départ, en laissant entendre qu'il y avait des assouplissements potentiel sur des modalités, mais du point de vue iranien, de toute façon, l'objectif c'est de préserver les intérêts nationaux et en toile de fond, évidemment, de sauver le régime qui se sent très menacé dans sa base.
David Rigoulet-Rose, invité de Lénaïque Monnier sur Europe 1. À l'étranger, toujours pas de trêve en vue sur le sol ukrainien. L'émissaire américain Steve Witkoff a rencontré Vladimir Poutine hier en Russie, on en parlait dans le journal, mais après plusieurs heures de réunion, l'avancée du dossier n'est pas déterminante. Caroline Baudry pour Europe 1.
Une poignée de main et quatre heures de discussion plus tard, Vladimir Poutine et Steve Witkoff semblent être toujours éloignés d'un accord de trêve. C'est le troisième entretien entre les deux hommes depuis février. Le Kremlin évoque un travail laborieux au cours duquel Poutine est à l'écoute. La thématique est très complexe, ajoute son porte-parole. Mais la Russie, accusée de jouer la montre, doit, je cite, « se bouger », a écrit plutôt Donald Trump sur son réseau Truth Social. Le président américain multiplie les pourparlers, déterminé à mettre fin au conflit au plus vite. Plus le temps passe, plus les Ukrainiens craignent d'être poussés à des concessions. Pour l'instant, le président américain n'a réussi à obtenir qu'une trêve en mer Noire au contour flou et la fin des frappes sur les infrastructures énergétiques. Une pause dans les bombardements que les deux belligérants s'accusent de ne pas respecter.
Caroline Baudry du service international d'Europe 1. Venons-en à l'actualité en métropole et les recherches qui ont repris dans le département de la Vienne pour tenter de retrouver Agathe, 28 ans, qui n'a plus donné signe de vie depuis jeudi dernier. La jeune femme était partie du domicile de ses parents à Vivonne pour un jogging. Depuis, plus personne ne l'a vu. 130 gendarmes et militaires sont mobilisés sur le terrain. Stéphane Place pour Europe 1.
C'est une course contre la montre qui est engagée et toutes les pistes sont explorées. 1m65, taille très mince, portant une tenue de joggeuse, short noir avec un sac de course. C'est la description que l'on peut lire dans cet appel à témoins lancé hier soir. Partie du domicile de ses parents à Vivonne jeudi dans la matinée, cette jeune femme n'est pas rentrée. C'est son père, inquiet, qui a donné l'alerte, d'autant que le téléphone de sa fille, qui était, semble-t-il, accroché à son poignet, ne répondait plus. Au fil des heures, des effectifs considérables ont été déployés sur le terrain. Une centaine de gendarmes, appuyés par des renforts de l'armée, de la protection civile et du club de jogging local. Également mobilisés, des moyens aériens, hélicoptères, drones dotés de caméras thermiques, deux équipes cynophiles, des motos tout-terrain, une brigade nautique. La gendarmerie concentre ses recherches dans un secteur situé entre les communes de Vivonne, Voulon, Celles-les-Vescots et Jancé. Le téléphone portable a borné la dernière fois jeudi après-midi dans un rayon de 250 mètres entre deux lieux-dits. Le parquet de Poitiers a ouvert une enquête pour disparition inquiétante et de nombreuses réquisitions ont été réalisées auprès des opérateurs téléphoniques. Elles sont en cours d'analyse.
Stéphane Place dans la Vienne pour Europe 1. Et puis dans l'actualité de ce dimanche matin également, cette affaire à peine croyable, l'enlèvement et la séquestration en métropole, il y a un an, d'un influenceur algérien hostile au régime d'Alger. La justice prend le sujet très au sérieux, puisque trois hommes ont été mis en examen. Antoine Bienvaux pour Europe 1.
Les trois suspects sont poursuivis pour arrestation, enlèvement, séquestration ou détention arbitraire par la justice française. Ils sont soupçonnés d'avoir enlevé, violenté, puis relâché Amine Bou Corse, un opposant au régime algérien, sur le sol français pendant donc 24 heures. Parmi les suspects se trouve un homme qui travaille au consulat algérien à Paris, ce qui renforce la thèse d'un acte politique commandité par Alger. L'affaire est prise très au sérieux en France, notamment par Bruno Retailleau. Le ministre de l'Intérieur a assuré suivre de près le dossier cet après-midi.
La situation est grave, tellement grave d'ailleurs que c'est le parquet national antiterroriste qui dirige l'enquête. Non pas parce qu'il y a un acte de terrorisme, mais parce que c'est un acte sans doute d'ingérence étrangère. Je laisse l'autorité judiciaire et je connais le grand professionnalisme du parquet national antiterrorisme pour démêler les fils de cette affaire.
Selon l'avocat de la victime Amir Boukors, il s'agit tout simplement d'une affaire d'État, car il rappelle que l'Algérie a plusieurs fois tenté de faire taire son client en émettant 9 mandats d'arrêt internationaux contre lui. En 2022, la France avait d'ailleurs refusé d'extrader cet influenceur vers l'Algérie avant de lui accorder dans la foulée l'asile politique. Selon l'avocat de la victime, le régime algérien a donc tout simplement essayé de mettre la pression sur son client en allant, je cite, le chercher directement sur le sol français.
Antoine Bienvaux du service police-justice d'Europe 1, 7h21, une dernière pause dans ce journal dans un instant. Sport et météo.
Jusqu'au vendredi 2 mai, gagnez un lit complet offert par Moerani. En jeu, un ensemble complet pour vous assurer la douceur de vos nuits. Un sommier avec matelas en 2 mètres par 160 avec ses deux oreillers, un drap housse plus un drap plat et les têtes d'oreiller. Pour jouer, c'est facile, envoyez maintenant chance au 40-20. Moerani, c'est le spécialiste de la literie orthopédique en Nouvelle-Calédonie. Le choix, la qualité, au meilleur prix toute l'année. Toutes les actus sur la page Facebook Literie Moerani, Nouvelle-Calédonie. N'hésitez pas à passer nous voir au 13 rue Forest à Ducos. Téléphone 28 69 42. Moerani, la garantie pour des nuits réussies. Un cadeau d'une valeur de 130 000 francs. Tirage au sort vendredi 2 mai à 14h. 371 francs par SMS. Sur Radio Rythme Bleu, il n'y a pas de jour sans jeu. My Primeur propose fruits et légumes, épicerie, œufs, miel, confiture, achats, un rayon boucherie, boulangerie, fromage, crèmerie, un espace vrac, une sélection de surgelés et autres spécialités. Visitez la page Facebook My Primeur Nouméa. Du lundi au dimanche, My Primeur, 20 route du Vélodrome à l'Orphelinat, dans la côte de l'Église du Vœu, 30 51 30.
RRB, première radio d'information.
La suite du journal et c'est du sport, Lionel Sabot.
Et on va commencer avec du football. Monaco a corrigé l'Olympique de Marseille ce matin et s'empare de la deuxième place du championnat de France de Ligue 1, Léo Fichon.
Oui, une victoire nette et sans bavure dans ce choc de haut de tableau. Les Monégasques se sont imposés 3-0 et grâce à cette victoire, les joueurs du Rocher récupèrent la deuxième place de la Ligue 1 à leur adversaire du jour. Lille, de son côté vainqueur de Toulouse de 2-1, revient à 2 petits points des Marseillais. Strasbourg aussi revient petit à petit. Les Strasbourgeois qui reçoivent actuellement Nice. Ils étaient menés 1-0 à la pause, mais ont égalisé puis ont pris l'avantage. C'est la 60e minute de jeu. Strasbourg mène 2-1.
C'est au rugby et l'Union Bordeaux-Bègles qui s'est qualifié ce matin pour les demi-finales de la Champions Cup.
L'UBB a largement dominé le Munster 47-29. En demi, les Bordeaux-Bègles seront opposés à Toulon ou à Toulouse, les deux équipes qui s'affrontent la nuit prochaine. En revanche, l'aventure européenne s'arrête là pour le Castres Olympique, défait 51-16 par Northampton. Les Saints qui iront défier le Leinster en demi.
Et puis chez les dames, on notera la victoire du 15 de France sur le Pays de Galles lors de la troisième journée du tournoi des Nations. Les tricolores sont imposés 42-12 et poursuivent leur sans faute, mais restent en deuxième position derrière l'Angleterre, vainqueur 49-2 de l'Irlande. La nuit prochaine, l'Écosse accueillera l'Italie. Du tennis, et on connaît l'affiche de la finale du Masters 1000 du tournoi de Monte Carlo.
Carlos Alcaraz, tête de série numéro 2 du tournoi, sera opposé à Lorenzo Musetti. L'Espagnol a dominé son compatriote Alejandro Davidovich Fokina en demi-finale. Le score 7-6, 6-4. De son côté, l'Italien a dû batailler pour sortir l'Australien Alex de Minaur. Victoire en 3-7, 1-6, 6-4, 7-6. La finale de ce Masters 1000 de Monte Carlo est prévue à 21h ce soir.
Vos stations Shell et Pacific, partenaires des pages spéciales Grand Prix de Formule 1 sur Radio Rythme Bleu.
La Formule 1 et c'est Oscar Piastri qui s'élancera en pole position du Grand Prix de Bahreïn.
L'Australien pilote McLaren a devancé George Russell sur Mercedes et Charles Leclerc sur Ferrari. Le premier Français, Pierre Gasly, s'élancera de la cinquième position. On l'écoute.
Non, c'était vraiment un très très bon tour. Je suis vraiment très content parce que ça a commencé en Q1. J'étais pas du tout à l'aise avec la voiture. On a fait un très très gros step à chaque fois pendant la séance et j'arrive à faire un super bon tour en Q2. Je pense qu'il m'a bien aidé après pour la Q3 pour la continuer sur cette lancée. Et non, c'est sûr, on finit à 4 centièmes du top 3. Je savais que c'était un très très bon tour. Après, de là à nous mettre aussi proche devant, je ne m'y attendais pas forcément.
Et derrière Pierre Gasly, cinquième, on retrouve Lando Norris, Max Verstappen, Carlos Sainz et Lewis Hamilton. Isaac Hadjar partira de la 12e position, Esteban Ocon 14e. Le départ du Grand Prix de Bahreïn, c'est à 2h la nuit prochaine.
C'était votre page spéciale Grand Prix de Formule 1 parrainé par Shell et Pacifique. Shell, à nouveau partenaire innovation de la Scuderia 2025. Sélectionnez le meilleur pour votre véhicule.
En moto, on notera les bonnes performances des Français lors des qualifications du Grand Prix du Qatar. Fabio Quartararo est sur la première ligne aux côtés des frères Marquez. Il s'élancera de la 3e position. Johan Zarco partira, lui, de la 7e place. Rendez-vous après la Formule 1 à 4h la nuit prochaine pour le Grand Prix moto du Qatar. De l'enfer du Nord au paradis, Pauline Ferrand prévoit à remporter cette nuit le mythique Paris-Roubaix, Léo.
Pourtant prise dans une chute à une cinquantaine de kilomètres de l'arrivée, la championne olympique de VTT cross-country, c'était l'été dernier à Paris, est devenue la première Française à remporter la version féminine de l'Enfer du Nord. On écoute Pauline Ferrand-Prévot.
C'est assez incroyable, j'arrive pas trop à réaliser pour le moment. J'ai juste envie de voir mon équipe et mes coéquipières pour les remercier aussi pour tout ce qu'elles ont fait pour moi. C'est vrai que depuis deux jours, je me sens pas très bien, j'ai été malade et j'étais pas sûre de prendre le départ ce matin. J'ai attaqué pour les faire rouler. Et puis finalement, je sais pas si quelqu'un a roulé ou pas, mais je suis allée à fond jusqu'à l'arrivée et remporter cette victoire, c'est vrai que c'est assez inespéré et je suis vraiment contente, je réalise pas encore.
Les hommes s'élanceront à 20h25 ce soir donc. Mathieu Van Der Poel, Tadej Pogacar, Mats Pedersen et Wout Van Aert font office de favoris sur le Paris-Roubaix 2025.
Du cyclisme sur piste également avec trois Calédoniens qui participaient ce samedi à la journée du sprint à Châteaubriant.
Hervé Salin a remporté le Kérin et la vitesse. Il a également terminé deuxième du 200 mètres lancé. Louise Chavitz s'est classée troisième féminine sur la vitesse après avoir réalisé là aussi le troisième temps du 200 mètres lancé. On notera enfin la 16e place sur le 200 mètres lancé de Paul Roy.
Du handball également avec la deuxième victoire en deux matchs pour Suzanne Wojcicka en équipe de France. Les Bleus sont imposés 31-28 cette nuit sur les Pays-Bas. Vendredi, elles avaient déjà battu les Néerlandais sur le score de 31-25. Le sport sur le territoire à présent avec du drift. C'était hier à Thomou-Vallée.
La première des trois manches de la saison du King of Drift chez les pros. Louis Crenier s'est imposé devant Kerian Chedorge et Nicolas Thévenet. Dans la catégorie loisirs, Julien Ancar a pris le dessus sur Glenn Newland. Rendez-vous le week-end du 14 et du 15 juin, toujours à Thomou-Vallée pour la deuxième manche.
Allez, on va rester dans la nature avec l'OCF Full Moon Trail. C'était hier soir du côté de Nessa Diouf.
500 coureurs étaient au rendez-vous de cet événement proposé en nocturne par Challenge Organisation. Deux courses étaient proposées au départ de la cabane du pêcheur, 4,5 km et 12,5 km. Retour sur cette très belle soirée avec Laure Papin, l'une des organisatrices.
On a une belle victoire sur le 12 km de Gabrielle Espada en 48 minutes 49. Et chez les féminines, c'est Emmanuelle Favard qui remporte le 12 km en 1:02. Sans une goutte de pluie, à la lumière de la lune et des frontales. C'était vraiment une superbe édition dans une super ambiance avec beaucoup d'esprit de solidarité entre les trailers, d'esprit de partage. Et puis là, on a enchaîné sur un barbecue avec les produits de l'OCEF et puis une soirée dansante. Et c'était vraiment un bon moment. On est contente de retrouver cet esprit-là sur les trails cette année.
Challenge Organisation qui sera de retour le mois prochain, ce sera le dimanche 4 mai avec le coup de trail et ce sera du côté de la Foix.
Et pour être complet sur les sports de pleine nature, le VCC Mondor organise son traditionnel souvenir. Didier Portera à partir de 8h sur le terrain qui borde la base aérienne de la Tontuta, un circuit de 8 km 300 qui sera effectué entre 1 et 4 fois selon les catégories. On termine ce journal avec la météo.
La météo avec la 7. 6 magasins sur l'ensemble du territoire pour vous accompagner dans tous vos projets. La 7, construire, rénover, aménager.
Les couleurs du ciel, c'est avec vous ce matin, Nicolas.
Alors, ce matin, le ciel sera nuageux avec des averses éparses qui circuleront sur l'extrême sud, l'est et les loyautés. En revanche, de belles éclaircies seront présentes sur l'ouest sous un ciel voilé en altitude. L'alizée de secteur sud-est soufflera de 15 à 20 nœuds en général, localement de 10 à 15 nœuds aux loyautés et sur le nord-ouest. Cet après-midi, sur la côte est, de belles éclaircies se produiront et quelques rares averses circuleront encore. Ailleurs, les passages l'emporteront et s'accompagneront d'averses. Celles-ci seront localement fortes, voire orageuses sur Marais et l'extrême sud, ainsi que sur la chaîne et la côte ouest. en cours d'après-midi. L'alizée de secteur sud-est soufflera de 15 à 20 nœuds en général, localement de 10 à 15 nœuds aux loyautés. Des rafales de l'ordre de 30 nœuds seront possibles aux abords de fortes averses, Les températures maximales seront stables et s'échelonneront entre 28 et 31 degrés.
Merci Nicolas, il est 7h30, c'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. On se retrouve à 8h pour un nouveau point sur l'actualité. Passez un très bon dimanche sur Radio Rythme Bleu.